Quelle est la consigne la plus difficile que vous avez jamais reçue? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un ordre que vous pensiez c'est impossible que je suive ça? En 2015, ça faisait 6 mois environ que je travaillais j'avais commencé à travailler pour Google en Californie. Et dans notre projet de drone de livraison, on devait présenter notre où on en était aux deux cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. J'ai soigneusement préparé la feuille de route de notre équipe pour montrer que bon, et j'avais essayé d'être ambitieux parce que c'est Google et il faut être ambitieux, mais à la fois réaliste parce qu'on peut pas faire l'impossible. Et donc on se présente à eux, on présente un peu où on en est et Larry Page demande à un moment bon. Et le pilote automatique, alors quand est-ce qu'il sera prêt pour qu'on puisse commencer à faire les tests en vol? Alors je respire un bon coup, je dis environ 3 mois. En 3 mois, on peut le faire. Et il me regarde un air incompréhensif. Il dit, mais 3 mois? Vous pouvez boucler ça ce week-end, non? 3 mois? Et là, comment répondre à Larry Page, le cofondateur d'une boîte les plus à succès au monde, qui a 50 milliards de dollars sur son compte en banque personnelle, quand il vous dit que vous devriez faire en 3 jours ce que vous pensez avoir besoin de faire, vous avez besoin de 3 mois pour le faire. C'est pas facile. Et ce matin, dans Lévitique 18 à 19 et 20, nous allons aussi voir une commande donnée non pas par Larry Page, mais quelqu'un de bien plus important, et une commande bien plus impossible. Celui qui va nous donner la commande, c'est Yahweh, le créateur de l'univers. Il va la donner à Israël. Il va leur demander d'être saint comme lui est saint. Alors, comment réagir quand vous êtes face à des exigences de perfection et que franchement, vous êtes loin d'être parfait? Avant tout, on va replacer ce chapitre dans le contexte du Lévitique. On a vu que ce livre est organisé comme une montagne, avec au sommet le chapitre 16, qu'on verra dans quelques semaines, l'expiation. On a vu ces dernières semaines le versant ascendant de la montagne, où Dieu nous a montré dans les chapitres 1 à 15 qu'il a ouvert la voie à Israël pour pouvoir le connaître, pour pouvoir demeurer au sein d'Israël, à travers les sacrifices et le tabernacle. Mais on a vu aussi que vivre avec Dieu en son sein, c'est dangereux. Et donc la question qui se pose, c'est mais comment est-ce qu'Israël peut espérer vivre avec ce Dieu saint au milieu du camp? Et c'est un peu ce que la pente descendante de la montagne va montrer. On va voir que au chapitre 17 à 27, comment vivre avec ce Dieu saint auprès de nous. Et ce matin, spécifiquement, dans les chapitres 18 à 20, on va voir que ce que Dieu exige, c'est la sainteté de son peuple pour pouvoir demeurer avec lui. Voici le point principal que je voudrais vous montrer ce matin, c'est que Dieu est saint et seul un peuple saint peut demeurer avec lui. Alors devenons les saints que nous sommes en Christ. On va surtout se focaliser sur le chapitre 19 ce matin, en touchant à quelques sections de 18 et 20. Donc je vous invite à lire avec moi le chapitre 19 en entier. Écoutons Dieu nous parler. Lévitique 19. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux, vous ne ferez pas des dieux en métal fondu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion, vous l'offrirez de sorte qu'il soit accepté. On mangera la victime le jour où vous le sacrifiez, ou le lendemain. On brûlera au feu ce qui reste jusqu'au troisième jour. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera pas accepté. Celui qui en mangera supportera les conséquences de sa faute, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera exclue de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés, tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, et vous ne recourrez ni au mensonge, ni à la tromperie, les uns envers les autres. Vous ne jugerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain, et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paix d'un salarié. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Mais tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand. Mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple et tu ne l'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous respecterez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme qui n'a pas été racheté ou affranchi, ils seront punis, mais non de mort parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera un bélier à l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre en sacrifice de culpabilité pour sa faute. Le prêtre fera l'expiation pour lui devant l'Éternel avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité pour le péché qu'il a commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejetterez leurs fruits comme étant impurs. Pendant 3 ans, vous les considérerez comme impurs, on n'en mangera pas. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous mangerez leurs fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. Tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Je suis l'Éternel. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures, ni dans les dimensions, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures de solide justes et des mesures de liquide justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. La parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, on te remercie de t'être révélé à nous par ta parole et par ton Fils, sinon impossible de te connaître. On te prie maintenant de nous éveiller, de nous ouvrir nos cœurs, de guider mes paroles, Seigneur, afin qu'on puisse entendre ce que tu veux pour ton peuple, Seigneur. On prie ça pour la joie de ton peuple et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voici la feuille de route pour le message ce matin. Nous allons voir que la sainteté, elle est nécessaire pour demeurer avec Dieu. On va voir que la sainteté, elle se doit d'être totale pour le peuple de Dieu. Et enfin, on va finir par cette promesse glorieuse que la sainteté, elle est assurée en Christ. La sainteté est nécessaire, elle est totale et elle est assurée en Christ. La sainteté est tout d'abord nécessaire pour pouvoir demeurer avec Dieu. Dieu le dit clairement au verset 2 de notre chapitre, au chapitre 19, une commande incroyable mais claire. « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Dieu commande la sainteté. Alors avant d'entrer dans les détails et de voir à quoi ça ressemble en pratique, on va regarder d'abord, essayer de définir qu'est-ce que c'est la sainteté et quel est son but. La sainteté, c'est quoi et pourquoi c'est important? C'est important de voir un peu dans son contexte. Notre section commence au chapitre 18 et se conclut au chapitre 20. Si vous regardez les premiers versets du chapitre 18, au premier verset du chapitre 18, les versets 3 à 5, le Dieu dit « Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes, vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est elles que vous suivrez. Vous respecterez mes règles et mes prescriptions. » Je l'avais en slide après. Bon, tant pis. Et on a un peu le même verset, mais en miroir à la fin du chapitre 20, au verset 22 et 23. Et en fait, ces deux sections qui servent d'introduction et de conclusion au passage en entier nous définissent un peu pour nous ce que c'est la sainteté. Et il y a ces deux aspects. Il y a le fait de ne pas vivre comme les autres peuples, d'un côté, mais aussi de vivre selon les prescriptions de Dieu, d'un autre côté. C'est ce que nous a enseigné le catéchisme des enfants la semaine dernière sur la sanctification. C'est à la fois mourir au péché et vivre dans la justice de Dieu. La consécration à Dieu et la perfection morale. C'est un peu les deux aspects de la sainteté. Je voudrais reconnaître que pour certains de vous, peut-être moi j'ai pas grandi dans l'église ou en religion, mais pour certains de vous, peut-être le mot saint, ça peut rappeler des mauvais souvenirs ou des blessures. Parce que peut-être dans votre famille ou dans vos communautés religieuses, on utilisait la sainteté pour vous taper dessus, pour vous dire, t'es pas saint, toi, il faut être saint. C'est un sujet qui peut peut-être être sensible pour certains, mais si c'est vous ce matin, je vous encourage à rester attentif jusqu'à la fin du message, parce qu'en fait, il y a une promesse glorieuse derrière ça, et je pense que ça va vous faire du bien. Alors Dieu va détailler pour nous ce qu'il entend par consécration et perfection morale dans le chapitre 19. Mais il est important d'abord de voir pourquoi il commande cette sainteté. Parce que si on voit pas le pourquoi, tout ce qu'on va retenir de ce chapitre, ce sera « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». Et on va rater ce que Dieu essaye de nous communiquer. Alors, pourquoi êtes-vous sauvés? Pourquoi Dieu nous sauve? Est-ce que c'est pour nous, pour pas qu'on aille en enfer? Est-ce que c'est pour aller au paradis, où on pourra faire ce qu'on veut, on sera pas malade? Toutes ces choses sont bien, et elles sont en effet un bienfait tangentiel au salut. C'est des choses bonnes. Mais pour voir le but essentiel du salut, il faut se tourner, par exemple, on peut se tourner au Lévitique chapitre 26, au verset 11 et 12, où Dieu dit, j'établirai mon habitation au milieu de vous, je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. En d'autres termes, le but du salut, c'est la communion avec Dieu. C'est apprendre à le connaître, à lui marcher avec nous. C'est quand même incroyable. Et c'est vrai qu'en un sens, Dieu l'a déjà fait un petit peu, le tabernacle. C'est Dieu qui demeure au milieu d'Israël. Et c'est vrai qu'il s'est révélé de façon ponctuelle, comme au chapitre 9, où il a fait le feu et les gens ont vu la gloire de Dieu. Mais Dieu, là, nous promet quelque chose de bien plus intense et de bien plus intime, de bien plus continu, de marcher avec nous. Ça doit vous rappeler la Genèse, chapitre 3, où Dieu marchait avec Adam et Ève à la fraîcheur de la soirée. C'est le genre de relation qu'il a pour nous. C'est pour ça qu'il a commencé ce processus de rédemption. Alors, quel est le rôle de la sainteté dans ce grand projet de Dieu de nous ramener à lui? Je pense que c'est important de se rappeler des trois sacrifices qu'on a vus la première semaine, ou que Samuel nous a rappelé aussi. Vous vous rappelez, Dieu a donné trois sacrifices. Il y a celui d'expiation en premier, qui montre que nos péchés doivent être punis. On doit payer pour nos péchés avant de pouvoir être réconcilié à Dieu. Il se termine, le troisième sacrifice, c'est celui de communion, où on mange le sacrifice et on en donne à Dieu. En gros, on symbolise ce festoyage, c'est pas un mot français, ce repas avec Dieu. La gloire ce sera d'être en sa présence. Et le sacrifice du milieu, celui qui était entre les deux, c'était l'holocauste, si vous vous en souvenez. Le sacrifice d'holocauste, c'est celui où un animal était entièrement brûlé. Il en restait rien. Il était entièrement consacré à Dieu. Mais il n'était pas détruit. En fait, il subissait une transformation. Il allait de la chair, et il se transformait en fumée. Une odeur agréable à Dieu, et qui montait au ciel pour demeurer avec lui. Et c'est une espèce de symbole qu'à ce que c'est la sanctification, c'est nous qu'on est transformés et on monte, on puisse demeurer avec Dieu, qu'on puisse être agréable à lui pour demeurer avec lui. Donc résumons ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors, la sainteté exige que nos vies soient entièrement consacrées à Dieu et qu'on ait la perfection morale. On va voir ça un peu plus. Et cette sanctification fait le lien entre la justification, le pardon de nos péchés, et la glorification quand on sera avec Dieu entièrement. C'est le chemin qui mène de l'un à l'autre. Alors, à quoi ça ressemble, la vie de saint? Il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Les chapitres 18 à 20, c'est l'épicentre de l'enseignement éthique de l'Ancien Testament, donc on va seulement effleurer le sujet, bien sûr, ce matin. On va voir qu'après l'appel à la sainteté, le chapitre est en gros divisé en deux parties. Il y a les versets 3 à 18 et ensuite les versets 19 à 37. On va avoir les deux grands axes. Dans la première partie, la perfection morale, à quoi ça ressemble. Et dans la deuxième partie, la consécration totale à Dieu, à quoi ça ressemble. Penchons-nous d'abord sur les premiers versets, les versets 3 à 18. Dans ces versets, nous allons retrouver des thèmes qui devraient vous être familiers. Écoutez bien. Verset 4, vous ne vous tournerez pas vers de faux dieux. Vous ne ferez pas des dieux en métal fondu. Verset 12, vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Verset 3, chacun de vous respectera mes sabbats. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence. Verset 16, tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Verset 29, tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution. Verset 11, vous ne commettrez pas de vol. Vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres, et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Ça fait 10. Et on retrouve ici évidemment les 10 commandements donnés à Moïse en Exode 20. Les 10 commandements, c'est au cœur de ce que ça veut dire de vivre une vie sainte. Et c'est au cœur de ce que ça veut dire d'être humain, créé à l'image de Dieu. Donc si vous voulez vivre une vie épanouie, voilà, on peut commencer par les 10 commandements. Et il y a deux choses qui me frappent. La première chose, c'est que c'est l'absence de séparation dans toutes ces commandes entre le religieux et le reste. Au verset 3, par exemple, ça commence avec « Honore tes parents » et puis « Respecte mes sabbats ». Deux choses qu'on mettrait dans des sphères complètement différentes aujourd'hui. Il y a des commandements moraux et religieux et il n'y a pas de complexe là-dedans entre séparer ce qui est religieux du reste. L'éthique et la théologie, du point de vue biblique, c'est intégré, c'est des choses inséparables. Et c'est un bon rappel pour nous qui avons tendance un peu à séparer les différentes sphères. La deuxième chose, c'est l'étendue du champ d'application de ces commandes. On commence au verset 3 à la maison, avec les parents. Ça concerne aussi la chambre à coucher. Il y a toutes les lois sexuelles, par exemple au chapitre 18. Il y a le placard avec les vêtements qu'on va mettre ce matin. Il y a la salle à manger avec ce qu'on mange, ce qui se passe au travail avec le moissonnage, ce qui se passe à l'église. Ça touche à tout. Ça nous enseigne que le champ d'application de la sainteté ne connaît pas de bornes. C'est dans toutes nos vies, dans tous les aspects de la vie. Ça touche à tout. On peut pas la mettre en veille quand on va au bureau. Et Dieu nous appelle à ne pas laisser ne serait-ce qu'une petite tranche de nos vies à l'écart de la sainteté. C'est donc bon de se demander, est-ce qu'on a relégué ne serait-ce qu'une petite part de nos vies à Canaan, hein, on la laisse-la tranquille, celle-là, Dieu. Moi, quand j'entends le mot sainteté, ça me fait penser à lire la Bible, préparer un message. Mais ces exemples nous montrent que les barrières, ces barrières artificielles, en fait, elles n'ont pas lieu d'être et on doit les combattre. Et ça fait, quand on y réfléchit, si toute votre vie est sous le domaine de la sainteté, en fait, ça rend chaque minute de votre vie une occasion de louer Dieu. Pensez à l'Israélite. Qui va faire les moissons sur son champ. Le choix de ne pas glaner les bords de son champ, pour lui, ça va être une façon de dire « Dieu, je te remercie parce que tu pourvois à tous mes besoins et tu pourvois aussi aux besoins des pauvres qui n'ont pas de champ comme moi. » Pour moi, ce serait, s'il y a une jolie fille qui passe dans la rue, ne pas me retourner pour la regarder. C'est une façon de dire « Ah Dieu, c'est en toi que je trouve ma joie, c'est toi mon délice. » C'est une façon de tourner chaque minute en une louange à votre Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous? Où pouvez-vous grandir en sainteté? Quel petit détail de votre vie négligez-vous de soumettre à Dieu? La sainteté se veut totale sur nos vies. Un autre thème qui caractérise cette première partie, c'est l'attitude du saint envers les plus démunis et les plus vulnérables. C'est partout, dans tous les versets. C'est assez incroyable. On le voit au verset 10, dans le contexte de la précarité économique. Tu laisseras une partie de la récolte pour le pauvre et pour l'étranger. On le voit au verset 13, dans le contexte de l'emploi. Ne pas garder jusqu'au lendemain la paie du salarié. Ça lui appartient. Au verset 14 et 32, avec les sourds, les aveugles, les vieillards. Dans le contexte de l'immigration, au verset 33 et 34, vous traiterez de l'étranger parmi vous comme un Israélite. Et que ce soit la précarité, le handicap, l'âge, le statut légal, toutes ces choses mettent une personne en situation de faiblesse par rapport à un autre. C'est comme la vidéo qu'on a vue. Hein. D'autres versets qui parlent aussi du vol, du mensonge, toutes ces choses-là ont un rapport de force en commun, où il y a un fort et un qui est en position de faiblesse. Et quand on est en position de force, on possède une certaine autorité sur l'autre. C'est une autorité dont on peut abuser. Et c'est donc un terrain fertile pour le péché. Parce que dès qu'on peut abuser quelque chose, on ne s'en prive pas. Or, Dieu le dit clairement à travers toutes ses commandes. Quiconque veut demeurer avec moi doit prendre soin des plus vulnérables. Et moi, je trouve ça frappant. Parce que en 37 versets, c'est ce que Dieu a choisi de mettre en avant sur la sainteté. Alors ça devrait nous faire demander, mais pourquoi? Pourquoi Dieu a choisi de placer l'emphase là-dessus? En y réfléchissant, une chose que je pense, c'est ça vient d'une partie de notre abus. Le fait que, parce que quand on abuse de notre autorité, notre abus d'autorité découle du fait que nous rejetons l'autorité avec un grand A, un A majuscule. Je pense que c'est ça qui est au cœur. C'est pour ça qu'on a un problème d'autorité. C'est parce que on rejette l'autorité de Dieu sur nos vies. C'est comme Adam et Ève dans le premier péché, ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de en faire à leur tête et rejeter Dieu. Dieu dit ça, moi je choisis de faire ça. C'est rejeter l'autorité de Dieu. Et le problème, c'est quand on rejette l'autorité avec Dieu, celui qui nous a donné l'autorité, eh bien, ça sonne le glas sur notre bon usage de l'autorité dans toutes les autres sphères. Et ça devient la loi du plus fort. Et ça, je pense que c'est ce qui caractérise le monde aujourd'hui. Et ça explique donc pourquoi aussi une certaine phrase est répétée, vous l'avez entendu, 15 fois dans ce chapitre, 50 fois dans les chapitres 18 à 20. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Martel, ça rythme le chapitre. Et ça nous rappelle que c'est qui vous a créé? Qui c'est qui t'a créé? C'est l'Éternel, je suis ton Dieu, Yahweh, celui qui est. Et c'est en son image qu'on a été créé. Et donc, c'est de son autorité que découlent les mini-autorités qu'on a dans tous les aspects de notre vie, en tant que parents, en tant que au travail. Et ici, Dieu nous rappelle, je suis l'autorité suprême. Et si tu veux retourner en communion avec moi, on doit se remettre en bonne relation avec du côté autoritaire. Et donc les saints démontrent ce retour à la normale dans la façon dont ils traitent les pauvres, les vulnérables, les étrangers, les salariés ou tous ceux sur lesquels ils exercent une autorité. Le saint se soumet et vit sous l'autorité de Yahweh et donc il va traiter les autres comme des frères et des sœurs qui sont eux aussi sous l'autorité du même Dieu. Et donc au final, il semble tout naturel que le chapitre culmine, c'est aussi une petite montagne le chapitre, hein, il culmine au verset 18, le verset au cœur du chapitre. Ça culmine à ce verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est aussi le cœur de la loi, comme nous l'a dit Jésus. Quand on réalise notre dépendance commune auprès d'un même Dieu, on est tous redevables à lui, et ben on va s'aimer les uns les autres. C'est ça que Dieu veut. Bien sûr, Jésus nous l'a rappelé en Matthieu 22, quand un pharisien lui a demandé « Jésus, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça nous montre que la perfection morale, aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer Dieu, c'est la consécration de nos vies. C'est ces deux aspects, la perfection morale, être consacré à Dieu. En fait, c'est la même chose. Et c'est ça veut dire d'être saint. Notre amour du prochain devient donc un test de notre foi pour voir qui est vraiment notre Dieu. Si on se voit exploiter quelqu'un de faible, mentir au travail, sur la feuille d'impôt, une demi-vérité, mépriser les immigrants. Cela nous montre ce qui se passe vraiment dans nos cœurs. Malgré ce qu'on peut dire avec nos lèvres, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Qui est notre vrai Dieu? Parce que quand on fait ça, on montre que c'est nous, le vrai Dieu. Alors si ça vous arrive, et ça nous arrive tout le temps, on doit être franc, repentez-vous. Confessez à votre Dieu vos péchés, car il est fidèle et juste, et à chaque fois, il nous pardonne et il nous purifie. C'est ce qu'il nous dit en 1 Jean. Et demandez-lui de continuer à transformer vos cœurs, parce que c'est ça le chemin de la sainteté qui nous amène au salut. Alors si la première section de ce chapitre est organisée autour des 10 commandements, des commandements moraux, la perfection morale que Dieu exige de nous, la deuxième section de ce chapitre, en particulier les chapitres 19 à 31, c'est un peu plus difficile. On peut croire, ça semble un peu incohérent, ça. Pourquoi il y a tout ça? Au verset 19, par exemple, on parle en un verset de comment accoupler les animaux, comment semer son champ, quels vêtements porter. C'est étrange. Au verset 27 et 28, on parle de coiffure, de barbe, de tatouage, et au verset d'après, de prostitution. Pour ceux qui veulent montrer que la Bible n'a aucune place pour le français du 21e siècle, ce texte, c'est une de leurs armes préférées. Et on voit pourquoi à première lecture. Mais quand on donne une chance au texte de s'exprimer, en fait, ce qu'on voit, c'est une unité se dégager de tous ces versets. Le verset 19 avec les répétitions de deux bêtes d'espèces différentes, deux espèces de semences, deux espèces de fils. Ça nous rappelle cette dualité du pur et de l'impur que Samuel nous a décrit la semaine dernière au chapitre 1 à 15. Ça nous rappelle l'aspect cultuel, l'aspect du culte. Et c'est tout ce que tous ces versets ont en commun. C'est évident au verset 20 et 25 qui nous rappellent les sacrifices à apporter, ou au verset 26 à 31 qui font référence aux pratiques cultuelles des Cananéens. La divination, la prostitution au temple, comment ils utilisaient le corps dans leurs rituels, la peau, la coiffure. Tout ça a été utilisé dans des rituels religieux. Et tous ces versets illustrent ce que Dieu a dit en ouvrant le chapitre 18, en débutant le chapitre 18, où vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous conduis, vous ne suivrez pas leurs coutumes. Et leurs coutumes, les voici. Les Israélites doivent donc garder leur culte pur et non pas le polluer avec les pratiques de Canaan. Comprendre ce contexte va donc nous aider à appliquer ces versets pour nous, chrétiens du 21e siècle, parce que sinon on peut en faire tout et n'importe quoi de ces versets. Ces commandes ont clairement un but de pédagogue. Ils illustrent une vérité que Dieu voulait inculquer à son peuple. Le fait que la sainteté, ça requiert la séparation du monde et la consécration entière à Dieu. C'est très important pour le bien-être d'Israël. Pourquoi ? Moïse nous le dit à deux reprises, au verset 29 et 31, regardez. Il interdit ces pratiques de peur que le pays ne se prostitue, et au verset 31, de peur de vous rendre impur. Le risque, c'est de s'éloigner de Dieu. Et ça, aux yeux de Moïse en tout cas, c'est pire que tout. C'est cela la motivation première derrière toutes ces commandes, et ça s'applique directement à nous. Le but de nos vies est de nous consacrer entièrement à Dieu et de vivre pour lui en tout. Et tous les détails de nos vies jouent un rôle là-dedans. Soit à nous rapprocher de Dieu, soit à nous éloigner de Dieu. Et nous éloigner de Dieu, ça aussi, ça devrait nous faire peur, nous qui avons été rachetés en Christ. Je pense que c'est ce que Dieu veut nous montrer à travers ces exemples. Ça va jusque dans les détails de ce que tu portes le matin. Même ce détail qui peut paraître insignifiant. Il dit non, si ta tenue risque de t'éloigner de Dieu, alors change-toi. Mets autre chose. Et c'est utile aussi pour nous aider à, quand on essaye de décider des choses, quand on a plusieurs options dans un choix de vie, que ce soit un petit ou un grand choix de vie. Demandez-vous aussi, est-ce que il y a un choix qui va me rapprocher de Dieu? Est-ce qu'il y a une de ces options qui va au contraire être un risque de m'éloigner de Dieu? C'est important d'y penser même dans les petits détails de la vie, les choses qui peuvent nous paraître insignifiantes. Il faut toujours mettre ça sur le contexte de notre consécration totale à Dieu. parce que la consécration se joue dans tous les petits détails et les petites décisions qui jalonnent notre vie. Enfin, un dernier aspect sur lequel nous devons dire deux mots, c'est celui de la sexualité. Car si nous ne l'avons pas lu ce matin, les chapitres 18 et 20, c'est beaucoup, c'est à propos de la sexualité. Ce que Dieu permet et interdit en termes de sexualité. Car c'est dans ce domaine que, clairement, Israël allait se démarquer du reste et de Canaan. C'était un aspect qui allait sembler tranchant au reste du monde. Contrairement à la composition des textiles de ses vêtements, ces prescriptions sont applicables à nous, parce qu'elles n'ont pas seulement un aspect pédagogue ou anticipatoire de Christ, mais c'est clairement des commandements moraux qui sont ancrés dans la création elle-même. Et donc les dire inapplicables à nous, c'est faire violence au texte, hein. C'est pas le prendre au sérieux. Dieu appelait donc Israël à se garder de l'adultère, de l'inceste, de l'homosexualité, de la bestialité. La pratique sexuelle d'Israël se devait de rappeler au monde le but de la sexualité. Cette alliance intime entre un homme et une femme qui allait partager ce moment exclusivement ensemble. Cette communion qui va culminer dans un moment de plaisir intense partagé. C'est incroyable comme cadeau que Dieu nous montre, nous donne ça pour symboliser son union entre son peuple et lui. Qui nous donne la sexualité pour exprimer ça, pour nous donner une idée de ce que ça va être. Vous aimez le sexe? Eh ben, ça va être comme ça quand on sera tous ensemble, mais encore. Malheureusement, forcément, comme tous les cadeaux que Dieu nous donne, eh ben, on les pervertit et on les redéfinit à notre guise. Mais Dieu continue à appeler son peuple, aujourd'hui comme avant, à être pur en ce domaine. Ce combat, il n'est pas nouveau. Il n'était pas facile, il n'est pas populaire, mais s'il y a un encouragement là-dedans, c'est que ça s'est écrit en 1500 avant Jésus-Christ. Et c'était pas populaire, pas facile en 1500 avant Jésus-Christ. C'est pas facile en 2021. Mais Dieu nous y appelle. Ça fait partie de ce qui nous appelle à vivre à contre-courant avec le monde. Au verset 37, Dieu va conclure ce chapitre en disant « Vous respecterez toutes mes prescriptions, toutes mes règles, vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel. » Le saint se doit de respecter toutes les règles, toutes les prescriptions. Pas seulement certaines, toutes. Et pas seulement, ça veut pas dire quand on va au temple, on regarde les tablettes, on les respecte, on dit « Ah, pas mal, hein. » Non, c'est les mettre en pratique, Dieu le précise. Et pour qu'on soit sûr de comprendre le poids de tout ça, il va le marteler 15 fois. Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. La sainteté, c'est nécessaire pour le peuple de Dieu et ça doit être total dans tout, même la sexualité. Comme le dit Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Ouf. Alors, avec tout ça, comment est-ce que ça va, hein? Parce que vous dites la sainteté, bon, pas de souci, je maîtrise, hein. J'espère pas, du moins c'est pas mon cas. Si vous saisissez ce que Dieu commande là, vous devez sentir cette espèce de poids et de fardeau sur vos épaules et vous dire mais c'est impossible, c'est une impossibilité d'obéir à tout ça. Bien sûr, les pratiques rituelles ne s'appliquent plus pour nous, mais tout ce qui est moral, oui. Et c'est l'essentiel du chapitre. Et en plus, on a vu que Jésus a pas relâché tout ça, mais comme on l'a vu avec le sermon sur la montagne, il va amplifier tout cela. Les faire non seulement sur des actes extérieurs, mais sur ce qui se passe dans notre cœur, que même haïr quelqu'un, c'est le tuer. Alors, comment réagir à cet appel à la sainteté? Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Alors, certains d'entre vous sont peut-être pas chrétiens. Et peut-être que cet appel à la sainteté, ça vous laisse un peu froid. Surtout si ça va empiéter sur vos choix de vie, c'est pas vraiment quelque chose qui est intéressant pour vous. C'est d'ailleurs peut-être le cas pour certains chrétiens d'entre vous. Vous dites, moi je veux bien d'un Dieu qui m'aide quand je suis dans le besoin, qui me réconforte quand je suis triste, mais sinon qui me laisse un peu tranquille sur le reste de ma vie. Et je pense que nous tous ce matin, on peut compatir et sympathiser avec vous. Parce que c'est notre lot, en fait, dans cette vie. C'est depuis notre exil du Jardin d'Éden, la sainteté, on ne désire pas ça naturellement. On ne désire pas ce qui est bon et pur, qui fait passe plaisir à Dieu. On veut simplement vivre notre vie comme bon nous semble, sans que Dieu nous embête. Et peut-être si vous êtes chrétien, par contre, vous sentez le fardeau et vous vous dites, mais moi, je veux vraiment vivre une vie sainte, mais même ce matin, en arrivant à l'église, je me suis énervé. J'ai péché contre mon épouse. Alors, comment est-ce que je peux faire? Ça vous déprime, ça vous décourage. Et vous vous dites, comment je peux vivre là-dessous? Alors, cette commande peut vous laisser indifférent, elle peut vous écraser, mais pour nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, ce matin, elle nous prêche une excellente nouvelle. Il faut se rappeler d'abord sur quel versant de la montagne on se trouve. Sur quel versant de la montagne lévitique on se trouve. On se trouve sur le versant descendant, pas sur le versant ascendant, celui de l'expiation. Non, non. Le versant où on se trouve, c'est celui après que Dieu ait accepté de demeurer avec son peuple. La sainteté qu'il prescrit ici n'est donc pas une précondition à sa venue en Israël, où il dirait, bon, montrez-moi d'abord si vous pouvez vivre une vie correcte. Hein. Après, je vais voir si je viens en votre sein. C'est pas ça. Dieu est venu, il a racheté Israël, tout comme il les a libérés d'Égypte avant de leur donner les 10 commandements. Il est venu habiter en leur sein avant de les appeler à la sainteté. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. On voit toujours Dieu nous libérer d'abord, nous racheter par sa grâce. Et c'est toujours une réponse à sa grâce que de changer de vie, que de vouloir vivre de façon différente. Alors si vous vous trouvez écrasé par ces commandes, c'est peut-être parce que vous avez oublié sur quel versant de la montagne vous vous trouvez. Si vous êtes en Christ, Dieu vous a déjà racheté, il vous a déjà accepté. Et on va pas essayer de se faire accepter en vivant des vies saintes, parce que c'est Christ qui nous accepte. Mais ce n'est pas tout. Regardez le chapitre 20 rapidement, les versets 7 à 8. Chapitre 20, versets 7 et 8. C'est Dieu qui parle. « Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ça nous rappelle le début du chapitre 19. « Vous respecterez mes prescriptions, vous les mettrez en pratique. » Ça fait écho à la fin du chapitre 19, mais écoutez comment ça se finit. « Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. » Ou comme d'autres traductions le disent, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » L'Éternel vous considère comme saint, Israël. C'est lui qui sanctifie. Et la sanctification, au final, c'est l'œuvre de Dieu. Et pour nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, ça, c'est une promesse incroyable. En nous adoptant en Christ, Dieu s'est engagé à nous rendre saints. Il nous considère comme saints et il nous sanctifie. Souvenez-vous de ces 3 sacrifices, expiation, holocauste, communion. Jésus s'est offert en sacrifice. Et c'est un meilleur sacrifice, car en un seul sacrifice, une fois pour toutes, il a accompli, une fois pour toutes, ce que ces 3 sacrifices symbolisaient. Le pardon des péchés, la sanctification de son peuple et la communion auprès du Père. Jésus s'est offert pas seulement pour le pardon des péchés, mais pour nous rendre saints et pour nous amener au Père. En lui, on a tout ce que les sacrifices symbolisaient. Regardez avec moi Hébreux, chapitre, verset 10, je l'avais sur les slides, non, bon, pas de chance avec les slides, okay. Hébreux 10, verset 14, ce verset m'a fait tellement bien cette semaine. Écoutez bien. « En effet, par une seule offrande, Christ a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Par une seule offrande, Christ a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. » Ce que ça nous dit là, c'est que si vous avez placé votre confiance en Christ, Jésus vous a déjà rendu parfait. Le verset le dit, il vous a conduit à la perfection, c'est du passé composé, c'est déjà accompli, c'est fait. Donc notre sanctification, dans un sens, c'est déjà accompli, c'est déjà fait en Christ. D'un autre côté, la deuxième partie du verset dit « Il nous rend saints ». Donc notre sanctification, dans un autre sens, elle continue à se faire chaque jour, Le sacrifice qui pardonne vos péchés vous assure aussi la sanctification. Vous êtes déjà saint et Dieu vous rend saint. C'est pas merveilleux? Moi, ça m'a chamboulé cette semaine. Et c'est la réalité aujourd'hui pour tous ceux qui sont en Christ. Cela nous permet donc de lire Lévitique 19 sous un autre jour, et c'est sur ça que je voudrais conclure. Deux applications de cette merveilleuse réalité. Quand nous lisons « Vous serez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu », nous n'y voyons plus une menace. Non. En Christ, cette commande, ça devient une promesse. La promesse souveraine de notre Père qui affirme « Vous serez saints comme je suis saint, parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. Car vous êtes déjà saints en mon Fils. Dieu affirme notre sainteté et quand Dieu il dit quelque chose, ça se passe. Notre sainteté, c'est plus un espoir, c'est une certitude garantie en Christ. Alors quand nous entendons « Nous vous serez saints car je suis saint », notre réponse c'est « Amen. Merci Père Céleste. » De même, le leitmotiv de ce chapitre « Je suis l'Éternel » qu'on retrouve 50 fois dans ces trois chapitres. Peut-être vous le lisiez comme un juge qui martèle comme ça sur le pupitre « Je suis l'Éternel, c'est moi l'Éternel » pour vous écraser, pour vous condamner. Mais pour nous, non. Maintenant, c'est la voix de notre Père qui nous rappelle que c'est lui le souverain. C'est lui Yahweh. Et s'il le répète, c'est parce qu'on l'oublie. Hein? On l'oublie dans tous les petits détails de notre vie. Mais lui, dans tous les détails de notre vie, il affirme « Vous serez saints. » Là, 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 dans ça, dans ceci, dans cela aussi, parce que « Je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous serez saints comme je suis saint. » Alors, chrétien, fais-en aussi ton refrain. Hein, prends exemple sur Lévitique 19. Quand tes soucis te répètent, tu t'en sortiras jamais. Là, t'es dans le pétrin, là, tu n'as aucun espoir. Ou alors quand ton cœur sent un peu le pourri, hein, quand il te dit, voilà, mais j'en reviens pas, t'as encore péché comme ça. Mais tu changeras jamais. Tu changeras jamais. Alors quand ça se passe, entendez votre Dieu tonner. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous serez saints comme je suis saint. Parce que c'est moi qui te sanctifie. Qui accusera donc ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort et bien plus que ça, qui est ressuscité, qui règne à la droite de Dieu, qui intercède pour son peuple. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, on a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, les anges, les puissances, la hauteur, la profondeur, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, Jésus s'est offert pour pardonner nos péchés, pour nous rendre saints. Par son sang, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, car par son sang, nous sommes saints déjà. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, une foi inébranlable, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, car il nous a déjà sanctifiés. Et Dieu nous appelle à conformer notre vie à ce que nous sommes en Christ déjà. Frères et sœurs, Dieu est saint et seul un peuple saint peut demeurer avec lui, mais gloire à Dieu. C'est ce qu'il a fait pour nous en Christ. Alors, devenons les saints que nous sommes en Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, qui aurait pu inventer un Dieu comme toi, un plan de rédemption comme le tien, Seigneur? Nous t'avions rejeté, tu t'es offert pour nous, tu as offert ton Fils pour nous racheter du péché, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous amener à toi. C'est incroyable, on veut vivre des vies qui te sont consacrées, Seigneur. Aide-nous à vivre d'une façon sainte dans toutes nos vies. Aide-nous. On te demande cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Merci pour ce message. Je vous invite à terminer ce culte avec un dernier chant. On peut se lever. On veut célébrer ce que Dieu a fait pour nous. Célébrer le fait que Jésus a tout payé. Il a payé ma dette. Et il a fait en sorte que on puisse être déclaré juste devant lui et qu'on puisse maintenant marcher dans la sainteté avec lui. Jésus a tout payé.